Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Folie douce qui, soit dit en passant, est la 900e émission à vie. Cette semaine, je reçois Thomas Bastien de l'Association pour la santé publique du Québec. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet « L'argent fait-il le bonheur? » Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Son sujet « Le présentéisme au travail ». On commence en chanson avec Léo Piché et la chanson s'intitule « Partir au loin ». Bienvenue chez nous.
Santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie douce.
J'accueille maintenant mon invité, Thomas Bastien. Bonjour, M. Bastien.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission.
Merci.
Vous êtes directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec, une organisation qu'on va apprendre à connaître parce
oui.
qu'il y a des très bonnes valeurs. J'aimerais d'abord peut-être parler de vous, c'est-à-dire est-ce que vous êtes directeur général depuis longtemps à cette association?
Ça fait 4 ans maintenant. Moi,
oui.
Je suis ingénieur agricole de formation,
okay.
Donc agronome. Et j'ai également en fait un diplôme en matière de maîtrise en génétique. Et puis, ça fait 15 ans en fait maintenant que je suis au Québec. Et puis, j'ai commencé dans le milieu des communications pour aller vers le milieu culturel. Et puis là, maintenant, c'est la santé.
Oui. Et pourquoi avoir choisi, pourquoi vous vous êtes choisi? J'imagine l'association cherchait quelqu'un et vous étiez la personne. Mais pourquoi vous intéressez justement à la santé publique au Québec?
Parce que c'est un peu la cause de tout. C'est la racine, en fait, sur laquelle on va trouver l'ensemble des problématiques qui, qui malheureusement en fait préoccupe beaucoup notre société.
Ouais.
Donc c'est vraiment remonter tout en haut et puis c'est assez fantastique en fait parce qu'on peut toucher à une multitude de projets.
Ouais. Ce qui m'a intéressé beaucoup en lisant un peu sur l'association, c'était un peu la prévention, tu sais, la prévention en santé qui mise l'avant, puis on n'entend pas souvent ce discours-là.
Oui.
Est-ce que l'association, lorsqu'elle a été fondée, est-ce que ça fait longtemps d'abord, puis quand elle a été fondée, est-ce que le gouvernement voulait avoir peut-être un genre d'entité là, qui va justement amener peut-être un nouveau discours?
Ben, l'association, en fait, c'est un organisme à but non lucratif, donc on est complètement autonome du gouvernement de notre côté.
Ouais.
Ça fait 80 ans qu'on existe, et puis ça a été créé, en fait, par des personnes qui étaient davantage, en fait, dans tout ce qui était hygiène. Ça a évolué, hein, bien sûr, au fur des années, et puis maintenant, on est davantage, en fait, dans la mission qui est la santé durable de la population, et puis notre rôle, en fait, c'est vraiment de faire en sorte que la santé, la population... soit en santé plus longtemps.
Ouais.
Oui, c'est ouais, pas mal ça.
Parce que dans le fond, on parle beaucoup tu sais, de maladies, tout ça, puis on dit souvent, bon, il nous manque des hôpitaux, il nous manque des lieux, il nous manque des... On a besoin de plus de médicaments, on a besoin d'assurance pour payer les médicaments, tout ça, mais à une certaine époque, tu sais, on parlait de... Je ne sais pas si vous avez connu ça à l'époque, mais il y avait participation ici, on disait, tu sais, faites de l'activité physique, faites des choses, ça va vous tenir en forme, tu sais, on part de loin, là, mais c'était quand même un discours qui était positif. Puis on entend rarement ce discours-là de dire essayons de prévenir, essayons de ne pas être malade, en fait, à tous les niveaux.
Ben, on est rendu, en fait, dans une société où on nous dit constamment, en fait, qu'on peut être malade et puis que ça va être traité.
Ouais.
Et en fait, c'est quasiment, en fait, devenu mauvais comme discours parce qu'en fait, on est en train de dire à la société qu'on peut continuer de souffrir et puis qu'il y a des personnes qui vont être là pour nous rattraper au final.
Ouais.
Mais la société dans laquelle on veut vivre, vous, moi, et puis on pose la question en fait à l'ensemble de la population, c'est une société où il n'y a pas de souffrance.
Ouais.
C'est une société où il n'y a pas de maladie.
Ouais.
Donc comment en fait on fait en sorte qu'on arrête d'avoir ce discours qui est vraiment sur la gestion de la maladie, la gestion des hôpitaux, la gestion des urgences, et puis qu'on arrive vraiment à se dire, bah, en fait, on n'en veut plus. On veut plus que les gens rentrent dans ce système-là et puis on veut vraiment prévenir pour que, bah, premièrement, en fait, notre système de santé arrive à perdurer. C'est ça la santé durable, la vraie santé durable.
Ouais.
Puis faire en sorte aussi, en fait, qu'il y ait des souffrances inutiles qui soient complètement évitées.
Tu as l'impression qu'on a toujours besoin de nouveaux hôpitaux, de nouveaux endroits. Puis dans le fond, c'est une autre façon de penser, de dire essayons plutôt de ne pas être malade. Il y aura toujours des gens qui vont avoir, il va y avoir des accidents, il va y avoir des trucs qui vont arriver, mais c'est minime en réalité si les gens se tiennent en forme.
Et puis c'est un peu comme il y a plein de comparables qu'on peut avoir par rapport au système de santé, mais par exemple au niveau des États-Unis, dans les années 60-70, on pensait en fait que de créer du système carcéral, ça allait en fait... Et évincer complètement la violence, ben en fait, ce qu'on a vu, c'est que ça a créé plus de violence.
Ouais.
Quand on essaie de créer plus de lignes sur les autoroutes, ben on se rend compte en fait que plutôt que d'essayer d'arrêter la congestion, on crée plus de congestion parce qu'on a plus de voitures qui vont sur les autoroutes. Ben, c'est un peu la même chose dans le système de santé aujourd'hui. À un moment donné, en fait, il faut se dire qu'il y a un arrêt à mettre en place sur... C'est un peu comme un plombier en fait qui essaie de réparer une fuite d'eau avec du Scott Tower, ça fonctionne pas là. L'objectif en fait c'est de réparer à la source, donc il faut arrêter de faire rentrer l'eau quelque part. Ben, c'est un peu la même chose en fait dans le système de santé là. C'est pas parce qu'on va créer ad vitam aeternam plus d'hôpitaux qu'on va gérer plus de maladies. À un moment donné, on n'y arrivera plus.
Ouais.
Donc il faut vraiment qu'on prévienne cette maladie là, qu'on la réduise de manière générale.
Oui, à l'Association pour la santé publique du Québec, comment vous vous faites entendre? Est-ce que vous réussissez à faire passer le message? Parce que c'est un gros changement là, de façon de penser. Puis ça va être c'est un gros bateau, la santé, là, au Québec. Là.
Ben, c'est un bateau qui est énorme, en fait.
Ouais.
J'ai beaucoup aimé, en fait, on prend souvent en fait, le symbole de la tarte avec justement en départ la moitié de la part actuellement en fait, de l'argent des contribuables, donc l'argent des Québécoises et des Québécois, c'est pour le système de maladie.
Le budget du Québec, c'est énorme.
53 milliards actuellement en fait, qui sont dépensés juste pour gérer la maladie au Québec.
Ouais.
C'est 2 milliards, un peu plus de 2 milliards en fait, pour gérer la prévention et la promotion de la santé. Donc, pour faire en sorte que justement, il y ait moins de personnes qui viennent dans ce système de santé.
Ouais.
Le ratio est complètement fou. En fait, on parle de 2% VS, hein, 98% en fait, de gestion de la maladie. Si à un moment donné, on veut rendre notre système durable, il faut vraiment travailler en fait, sur ces chiffres-là. Ça, c'est la première chose. Mais on est à un moment donné où on ne peut plus créer de l'argent. Il va falloir faire des choix. Donc, est-ce qu'on fait en sorte que la maladie prend de plus en plus de place, donc de plus en plus de budget, et on va devoir couper à un moment donné sur l'éducation? On va devoir couper à un moment donné sur les infrastructures? On va devoir couper sur la culture? On va devoir couper en fait sur tous ces endroits-là parce que c'est devenu un pachyderme qui ne fait que manger. Donc, à un moment donné, il faut le mettre à la diète, d'une certaine manière. Et donc, il faut réduire la maladie pour justement pouvoir redistribuer cette richesse autre part.
Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de résistance dans le milieu, chez les gens eux-mêmes.
Oui.
Ils ont été habitués depuis des décennies de penser comme ça.
Ben, c'est parce qu'à chaque fois, en fait, on dit que c'est une responsabilité individuelle, mais c'est une responsabilité de société. C'est une responsabilité des entreprises aussi qui produisent des produits. La responsabilité, elle est vraiment sociétale. Et puis, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a plus de choix. À cause de tous les choix qu'on a fait jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on n'en a plus de choix. Il va falloir couper quelque part. Ça, c'est la première chose. Donc, nous, on parle d'une transition vers la réduction de la maladie. Mais à côté de ça, les gens comprennent en fait qu'on est arrivé à un stade limite. Le mur, il est en face de nous et puis qu'il faut qu'on change quelque chose. Par contre, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que premièrement, il faut que le gouvernement il change sa posture. Ça, c'est la première chose. Parce que la population, elle en a entendu des messages de prévention. Elle en a entendu. Aujourd'hui, on est en train de se fédérer, on est en train de se réunir ensemble pour avoir des messages comme ceci qu'on n'entendait pas jusqu'à maintenant, mais qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Mais à un moment donné, il va falloir que les industries aussi, elles changent. Il va falloir aussi qu'on essaie de réguler ou alors qu'on essaie de voir davantage par rapport à notre alimentation, par rapport à nos substances qu'on ingère, par rapport à notre rythme de vie. Il y a quelque chose à faire par rapport à tout ça qui n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui dans notre écosystème. Ouais.
Hein. Et sûrement que vous avez à vous battre aussi contre les lobbies.
Oui.
On n'a pas peur de le dire, les lobbies.
Oui.
S'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de médicaments. S'il n'y a pas de médicaments, ben, ces compagnies qui font beaucoup d'argent, on ne veut pas voir le gros méchant là, qui fabrique des médicaments, mais à quelque part, tout le monde est comme lié, puis ils sont habitués d'être dans un système comme ça. Fait que ça, vous attaquez un petit peu, entre guillemets, à des endroits qui vont être difficiles à... Ben.
En fait, moi, il y a deux choses. Enfin, à l'association, il y a deux choses qui nous préoccupent par rapport à ça. Premièrement, comme vous dites, en fait, on fait des choix financiers.
Mm-hmm.
Donc, si cet argent, en fait, il va sur le traitement, s'il va dans la création de médicaments, s'il va dans l'innovation qui est en relation avec la gestion de la maladie, ben, on n'investit pas, en fait, pour prévenir cette maladie-là. Donc, il y a toujours un parent pauvre quelque part.
Ouais.
Et le lobby, il est toujours là pour aller chercher cet argent. Il est toujours là pour aller, justement, chercher cette rémunération. Ce qui est tout à fait normal, hein, c'est des entreprises qui sont là pour faire justement des revenus. Ça, c'est la première chose qui est préoccupante. La deuxième chose qui est préoccupante au Québec, c'est qu'on n'a pas de portrait global de la maladie. Aujourd'hui, quand on dit les urgences sont pleines, qu'est-ce que c'est les urgences? Est-ce que c'est des maladies cardiovasculaires? Est-ce que c'est des cancers? Est-ce que c'est des maladies en fait, qui sont liées à des saisons? Est-ce que c'est des maladies qui sont plus graves que ça? Est-ce que c'est des personnes qui sont tombées dans la rue?
On n'a pas de portrait.
À chaque fois, on dit, et puis les médias sont très forts là-dedans, hein,
ouais.
Rapporter le
pourcentage d'occupation.
Exactement, le pourcentage. Ouais. Ça veut dire quoi, le pourcentage d'occupation? C'est quoi les maladies qui sont présentes dans notre système de santé?
Ouais.
Quelles sont les maladies sur lesquelles on devrait, en priorité, mettre justement en fait, des plans très, très forts d'action, de réduction de ces maladies-là pour libérer notre système de santé? On ne le sait pas. Il n'y a personne qui est au courant actuellement. Et puis, si on en parle même au niveau du ministère de la Santé, le tableau de bord qui a été mis en place aujourd'hui, ce n'est pas un tableau de bord qui parle de ça, là. Il parle du temps d'attente qu'on va avoir dans les urgences. Mais est-ce que je viens, en fait, pour un petit bobo? Est-ce que je viens pour une grippe? Est-ce que je viens pour la COVID? On rentre dans le 18 heures d'attente, 17 heures
peut-être
d'attente.
Peut-être certaines personnes le savent, mais la population ne sait pas vraiment.
Oui, puis même au-delà de ça, en fait, je vous dirais, il y a certaines personnes qui le savent, mais il y a tellement de bases de données qui sont existantes actuellement au niveau du ministère de la Santé que ça me ferait plaisir, en fait, d'avoir un ministre qui aujourd'hui arrive à nous dire « Voici les 15 plus grosses maladies qui sont présentes dans le système de santé et voici ce qu'on va mettre en place justement pour les réduire. »
Et ça n'empêche pas, vous n'êtes pas contre le fait de développer. Il va toujours falloir avoir certains médicaments.
Complètement.
Parce qu'il y a des médecins spécialistes, ça, mais il faut travailler avec ce qu'on a, dans le fond, c'est un peu ça.
Exactement. Et puis, c'est parce qu'au bout d'un moment, en fait, si on ne se dote pas de plan pour réduire la maladie, on ne peut pas accompagner le patient.
Oui.
Monsieur Dubé le disait, son plan santé qui a été sorti il y a plusieurs mois, en fait, de son côté, la priorité, c'était le patient. Mais un patient aujourd'hui, en fait, qui est congestionné avec d'autres patients qui sont en train de faire la file, ce n'est pas un patient qui est bien traité. La meilleure des choses à faire pour traiter bien un patient dans le système de santé aujourd'hui, c'est de réduire le nombre de patients. C'est la première chose.
Ouais.
parce que ça donne plus d'espace pour le pour médical, pour vraiment, les personnes qui veulent voir justement les patients. Ouais. Donc, les infirmiers, les infirmières, les personnes, les médecins, pour leur laisser plus de temps, en fait, du temps de qualité pour pouvoir traiter ces personnes-là. Et puis après, ben justement, pour avoir des choix de société qui font plus de sens.
Oui. Puis on parle évidemment de santé globale, mais on parle de santé mentale ici souvent à l'émission. Puis la santé mentale, ça aussi, c'est un autre monde. C'est souvent le parent pauvre. Ouais. Puis les gens n'ont pas souvent d'assez de services. Puis on parle souvent de... Les gens ont besoin de psychothérapie, ils n'en ont pas. Mais encore une fois, il y a de la prévention à faire au niveau de la santé mentale.
En fait, la santé, en fait, selon la définition de l'OMS, c'est vraiment en fait, un état physique et un état mental qui est très important, même un état social. Hein.
Ouais.
On parle de toutes ces choses-là. La solitude, c'est une problématique de santé publique, de manière générale.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, en fait, dans toutes ces choses-là, c'est qu'encore une fois, en réduisant la maladie, on arrive à régler ces problématiques-là. On arrive à adresser, en fait, des ressources aux bons endroits, au bon moment. Vous parlez de santé mentale. Nous, ce qu'on a sorti, en fait, avec notre livre de la réduction de la maladie, qui est sorti, en fait, il y a de cela quelques jours, ça nous a préoccupé énormément, en fait, de se dire, on a les changements climatiques qui sont de plus en plus communiqués et puis qui sont de plus en plus cherchés. En fait, il y a des chercheurs au niveau international qui démontrent tous les impacts que ça peut avoir sur notre santé et sur notre système de santé. Santé mentale, on a des problématiques de santé mentale qui ne font que grandir. Les inégalités qui grandissent avec les jours et les années qui passent. Également, en fait, des maladies chroniques qu'on ne voyait pas il y a de cela 20, 30 ans et puis qui sont en train d'exploser complètement.
Ouais.
Et des c'est juste que le vieillissement de la population, on est avec un cocktail Molotov actuellement là, qui fait en sorte qu'on n'a rien vu de la problématique du système de santé. On n'a rien vu de ces 200% ou 300% en fait de taux d'occupation. C'est ce qui va arriver si on ne réduit pas la pression sur le système de santé en réduisant la maladie aujourd'hui. Ça ne fonctionnera pas pour demain.
Ouais. En terminant, ben, si les gens veulent en savoir plus sur ce que fait l'Association pour la santé publique du Québec, on cherche, j'imagine, le site web.
Exactement. En fait, c'est aspq.org.
Ouais.
Vous allez trouver toute l'information et puis vous allez retrouver toutes les thématiques de notre organisation.
On va suivre ça. Merci beaucoup, Thomas Bastien, d'avoir été des nôtres.
Merci
et bonne continuation.
Merci.
Au revoir.
Quand on rame de honte, quand on sourit aux passants, quand on regarde ce qui compte, quand on embrasse un amant, quand on refait les comptes, quand on manque de temps, quand un jour on affronte, quand on passe devant, quand on joue la refonte, quand on plie sous le vent, quand on jette le tout. Quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble. Quand parfois on surmonte, quand on respire l'instant, quand la mer remonte, quand la lune redescend, quand arrive le soir, quand tout est noir, quand on vit l'ordinaire, quand on est seul sur la terre, quand on regarde le ciel, quand tout est éternel, quand le jour sera fini, quand tout sera fini, quand on jette le tout. Quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble. Là, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble. C'est
jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble.
Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram.
C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre.
Salut Yvan.
Aujourd'hui, tu nous arrives avec quelque chose qui est un peu une phrase qu'on entend souvent. L'argent fait-il le bonheur?
Oui, ça fait longtemps qu'on se pose la question.
Ouais.
C'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui nous dit « Est-ce que l'argent fait le bonheur? » Texte argumentatif avec un point d'interrogation à la fin. J'ai trouvé ça sur le site Internet flashmod.tn. On nous dit en commençant « L'argent est un élément essentiel à la vie car il permet de vivre confortablement ainsi que de réaliser beaucoup de désir. Il y a des gens qui pensent que l'argent est indispensable au bonheur, alors que d'autres voient le contraire. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Effectivement, avec l'argent, on vit le bonheur. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans cet article.
Ouais.
Le fait d'être riche permet d'outrepasser les problèmes du quotidien pour se focaliser sur ce qui représente réellement le bonheur. L'argent apporte du bonheur car il permet de se libérer de certaines contrariétés de la vie quotidienne. Il n'est pas proportionnel à la somme d'argent que l'on possède. Mais d'après une étude, l'argent fait bien le bonheur, raconte le magazine Vanity Fair. Dans un papier publié en 2010, l'économiste Angus Deaton et le psychologue Daniel Kahneman constataient une hausse de la satisfaction à l'égard de la vie conforme à la hausse des revenus. L'argent est devenu quelque chose d'essentiel qui nous permet de vivre et de répondre à nos besoins et à nos désirs, à tel point qu'aujourd'hui, il est associé à la notion de bonheur. L'ancienne citation « L'argent ne fait pas le bonheur » est maintenant suivie de « Mais il y contribue ».
Oui, c'est ce qu'on disait souvent, là. Ça ne nuit pas, ça aide.
En bon québécois, on dit « Mais ça l'aide ».
Ça l'aide, ouais, c'est ça, avec le L apostrophe.
Oui. Alors, l'argent permet de fabriquer des souvenirs, de partager quelque chose avec d'autres, de changer sa façon de voir la vie. Ainsi, utiliser l'argent pour faire le plein d'expériences positives est une façon de vous rapprocher du bonheur. Alors, pourquoi l'argent ne fait-il pas le bonheur? L'expression signifie qu'il ne suffit pas d'être riche pour être heureux. Le bonheur se trouve ailleurs. En effet, même si l'argent permet d'acheter tout ce que l'on veut, d'attirer des faux amis autour de soi, cela ne suffira pas à rendre quelqu'un heureux sur le long terme.
Ouais.
Quelle est la relation entre l'argent et le bonheur? L'argent entraîne donc toujours le bonheur, mais quel que soit le niveau de richesse où l'on se trouve. Néanmoins, la recherche pointe que les personnes assimilant l'argent et le succès peuvent être moins heureuses que ceux ne le faisant pas, car ils passent plus de temps à travailler et se sentent pressés par le temps. La notion de bonheur est intimement liée au désir. Être heureux, ce serait de réaliser tous ses désirs, ou du moins réaliser tous ses désirs importants. L'être humain heureux accomplit les objectifs qu'il s'est fixés, ceux qui ont une valeur pour lui-même.
Et peut-être être heureux, c'est d'avoir le temps. Plus de temps. T'sais, le
oui.
temps, c'est presque de l'argent, on dit.
Oui.
Fait quand les gens ont assez d'argent pour avoir plus de temps libre, c'est là qu'ils sont peut-être plus relax.
Peut-être que ça prend un équilibre aussi entre les deux.
Oui, c'est sûr.
Alors, comment prouver que l'argent ne fait pas le bonheur? Voici 5 preuves que l'argent ne fait pas le bonheur, en tout cas d'après cet article. Premièrement, on ne vend pas de bonheur au supermarché.
Non, je ne l'ai jamais trouvé. Je ne sais pas quelle allée.
Je n'ai pas vu Provigo
ou
chez Métro, non.
Non.
Deuxièmement, on connaît tous un gars ou une fille riche et triste.
Ouais.
Troisièmement, dans la recette du bonheur, il n'y a pas d'argent. Quatrièmement, on connaît tous un gars pauvre et heureux. Et cinquièmement, avoir un jacuzzi pool dans une villa avec hélicoptère ne rend pas heureux. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans cet article.
On peut être stressé par l'entretien de l'hélicoptère, je ne sais pas.
C'est vrai, Yvan, que peut-être si on n'en connaît pas personnellement nécessairement, on entend tellement de personnes riches nous dire la même chose.
Oui. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'autres sortes de problèmes. Il y a des gens, justement, des faux amis, comme tu disais, puis ils doivent refuser. Fait que ça devient stressant aussi, là, comment gérer... Alors que quand on n'a pas rien, on ne peut pas...
Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui ont gagné des gros montants à la loterie, puis qui nous disent quelques années après, ça ne m'a pas rendu plus heureux.
Ouais.
Il y en a même qui ont perdu leur argent.
Il y en a qui ont tout perdu, ouais. C'est ça, c'est extrêmement dommage.
Alors, je poursuis ma lecture. Pourquoi l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » ? Cette expression fait référence à l'empereur de Rome qui avait mis en place des toilettes payantes. Son fils jugea ridicule cette façon de faire en lui indiquant que si les toilettes ont mauvaise odeur, l'argent, lui, n'en a pas. Cette expression désigne désormais l'argent gagné malhonnêtement. Je pense que c'était l'empereur Vespasien.
Ah oui?
Je pense. Okay. Ouais. Alors, l'argent a-t-il donc autant d'importance? Omniprésent dans la société moderne, l'argent apparaît comme le centre et le moteur de toutes les actions humaines. L'argent est un moyen par lequel on peut faire du bien à soi-même et aux autres et qui permet d'accéder au bien-être, parfois même au bonheur. Est-ce que le bonheur existe dans notre monde? Le bonheur est une réalité. Première bonne nouvelle, le bonheur existe. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. Et il est fréquent. Sondage après sondage, environ 90 % de la population française se dit heureuse de sa vie. C'est quoi le bonheur dans la vie? Voici une définition du bonheur. Il s'agit d'un état durable de plénitude et de satisfaction agréable et équilibré de l'esprit et du corps. La souffrance, l'inquiétude et le trouble sont absents. Le bonheur est en lien avec l'image que l'on a de soi par rapport à tout ce qui nous entoure. Et finalement, pourquoi le bonheur est-il important? En somme, le bonheur rend créatif, flexible, ouvert d'esprit et bien souvent efficace. Les émotions positives engendrent aussi des changements durables et profonds. Nous pouvons nous demander si la joie de vivre constituerait une forme de protection contre les événements néfastes de la vie. Et en terminant, il y a cette phrase du fameux comique acteur Coluche qui disait « L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. »
Ouais, effectivement, ben, on va poursuivre quand même sur le thème. Donc, l'argent fait-il le bonheur plus tard à l'émission?
La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet.
C'est maintenant le moment d'accueillir notre collaboratrice. Bonjour Catherine Strassin.
Bonjour Yvon.
Alors aujourd'hui, ta chronique, le présentéisme au travail. On dit souvent ça à la blague, hein, faire du présentéisme.
ouais,
ils font du présentéisme, ils ne sont pas vraiment en train de travailler.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, en effet, on est au travail, mais la tête n'y est pas. Hein.
Ouais.
Donc,
notre corps est là, on est assis à un bureau.
Ou à la machine à café.
On n'accomplit pas trop de... Ouais, on est dans les parages du bureau, mais est-ce qu'on accomplit vraiment nos tâches?
Voilà, oui. En fait, je vous parle de ça parce qu'il s'avère que dans une étude, il y a des résultats qui ont donné que, en fait, les gens, deux tiers des employés, c'est quand même beaucoup en ordre de grandeur, vont travailler malgré un problème de santé mentale. Donc, ils vont donc quand même se déplacer, aller au boulot, alors qu'ils ne se sentent pas bien mentalement. Alors, évidemment, il y a la grande question qui se pose, mais pourquoi on fait des trucs pareils?
Parce qu'ils veulent pas s'absenter parce qu'ils ont peut-être pas les avantages monétaires s'ils s'absentent. Ça peut être ça. Hein?
Ah, ça peut être ça. En effet, c'est une bonne idée. Dans le fond, on peut réfléchir et se dire, tiens, un jour où ça s'est arrivé qu'on n'était pas bien et qu'on se dit, ben, est-ce que j'y vais ou pas ce matin au travail? Qu'est-ce que je fais?
Ouais.
Alors,
des fois, c'est mal vu.
Voilà, exactement. Tu as tout compris. Ça, c'est une des raisons. C'est-à-dire que un quart des personnes craignent ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est mal vu, ils vont être stigmatisés s'ils disent qu'ils s'absentent pour une matinée, pour un peu se reposer dans le fond au niveau santé mentale, donc pour juste un peu relâcher et se détendre parce qu'ils sentent qu'ils en ont besoin, que c'est pas quelque chose de futile. Donc ça, c'est une des raisons, mais la principale raison, le principal facteur de décision, c'est qu'en fait la politique de l'entreprise dans laquelle ils travaillent n'est pas faite pour que ce genre d'heures ou de journées soient prises. Donc, ce sont des politiques où on va valoriser, où on va dénigrer l'absentéisme. Et du coup, bon, l'absentéisme ou l'absence pour santé mentale. Donc, on va au boulot, même si on n'est pas dans sa tête, en fait, que ça ne va pas. Donc, c'est le gros problème, c'est comment la politique de l'entreprise dans laquelle on travaille, comment elle est organisée, comment elle organise les congés. Si elle te dit, ben, y a zéro congé sans certificat, c'est sûr que ça devient problématique. Mais là, même c'est... pour un petit rhume.
Oui, mais encore là, c'est toujours drôle. On dit sans billet de médecin. On dit,
Voilà.
Et que, comme si les gens allaient faire la file pour aller voir un médecin pour se faire donner un billet pour s'absenter une demi-journée. T'sais.
On sait ce que c'est, surtout si on n'est pas bien. Faire la file une journée ou une demi-journée ou une nuit pour demander juste d'aller relâcher la pression un tout petit peu, ça n'a pas de sens, on va être encore plus stressé. Donc ça, c'est sûr, c'était une des raisons. Donc on a dit la stigmatisation au sein de l'entreprise, la définition, la politique de l'entreprise. Et puis aussi, il y a des employés, et il y en a beaucoup, qui se jouent eux-mêmes de leur maladie ou de leurs problèmes de santé mentale. C'est-à-dire qu'ils disent « Oh, ben là, ça ne justifie pas un petit congé. Je suis endurci, j'y vais, etc. Et j'accumule le stress, etc. » Évidemment, ils ne le disent pas comme ça. Mais ils vont donc accumuler une certaine pression, ils vont accumuler des problèmes et donc en causer de plus sérieux à long terme. Personne n'ose... Bon, certaines personnes, allez, on va dire une minorité, ça ne leur viendrait pas d'aller au boulot avec un énorme abcès dentaire qui les fait souffrir et qui doit être soigné sous peine de problèmes plus graves, ok?
Il se sentirait pas mal de dire « je dois aller d'urgence voir un dentiste, par exemple. »
Voilà, et un problème de santé mentale pas soigné, pas considéré, peut faire boule de neige comme un abcès dentaire, ça peut dégénérer, d'accord?
Donc ça vient confirmer peut-être que c'est encore mal compris, mal perçu par l'entourage et les employeurs peut-être?
Je pense que c'est assez certain que, oui, un certain pourcentage d'employeurs ne considèrent pas. En tout cas, ce n'est pas de manière intentionnée malveillante. C'est un manque d'éducation, simplement, je pense.
Ouais.
Ici, justement, quelle est leur raison pour les employeurs d'avoir une telle politique et de l'améliorer, en tout cas, d'avoir une politique qui va valoriser la santé mentale? Eh bien, en fait, c'est simplement s'ils savent que au Québec, déjà, une personne sur trois a reçu un diagnostic, attention, je ne dis pas de maladie mentale, mais d'un trouble ou d'un problème de santé mentale, une personne sur trois. Donc, c'est certain que ces personnes travaillent également, ok, ou ont travaillé un jour. Donc, l'employeur, il a intérêt à donc être organisé pour faire face à ce genre de problème. Et ce qui est surtout très intéressant pour l'employeur, maintenant, ce que je vais dire, c'est que quelqu'un qui vient faire du présentéisme, qui vient au boulot, à l'usine ou dans un bureau, dans une banque, Dieu sait quoi d'autre, eh bien, il peut faire du tort à l'entreprise, il peut avoir une incidence négative jusqu'à trois fois en étant présent plutôt qu'en étant absent pour maladie à la maison et de se reposer une matinée ou une journée.
Donc plutôt que de...
Trois fois en étant
plus
présent,
tard,
parce
ça,
qu'il
des,
peut
des
faire
erreurs,
des grosses erreurs.
Peut-être quelque chose qui peut coûter même... qui peut être dangereux pour les collègues.
Oui,
pour,
puis aussi l'humeur peut influencer l'humeur des collègues, etc. Ouais. Donc c'est certain que ça, c'est été documenté, donc ce chiffre dont je vous parle.
Donc plutôt que de prendre une demi-journée puis de revenir un peu plus en meilleure forme puis là de fonctionner mieux... Bien, cette demi-journée-là va comme être beaucoup bénéfique, finalement.
Oh, il va être bénéfique pour l'employeur à long terme. Parce que, donc, quelqu'un qui a une incidence négative, à long terme ou à moyen terme, il y aura des coûts importants générés par les erreurs ou les problèmes causés.
Ouais.
Donc, la solution ici, le progrès, disons, hein, parce qu'il n'y a pas de miracle, mais le progrès vers lequel les entreprises, les organisations peuvent aller, c'est s'éduquer, comprendre la relation qu'il peut y avoir entre la santé mentale d'un employé et sa production de manière moyen et long terme. Donc, pas juste au bout de la semaine, voir le court terme, il n'est pas là, ça me complique la vie.
Et ton sujet, en fait, ça me faisait penser que même si la personne n'a pas comme une difficulté d'ordre mental, là, Il y en a qui font du présentéisme, parce que, soit parce qu'ils n'aiment pas leur travail, ils sont comme pris là, puis ils ne savent pas trop quoi faire. Oui. Ils sont un peu comme des fois, pas en stress, mais en continu, là, si on veut. Puis ils font du présentéisme, puis ils essaient juste de faire du sens avec leur vie. Puis ça aussi, ça mine, ça.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Oui, dans le fond, ils n'aiment pas ce qu'ils font et puis ils peuvent casser les pieds des autres.
Ils n'ont comme pas le choix parce qu'ils sont là, ils ont besoin de leur gagne-pain. Puis,
c'est sûr, mais ça, c'est pas positif.
Peut-être que l'entreprise aurait intérêt à soit aider la personne à trouver faire un sens avec son. De voir ça peut-être de façon plus positive. Ou,
d'être à l'écoute, en tout cas. Et si les RH observent que cette personne a une attitude un petit peu. Nonchalante, dilettante, pas tout à fait impliquée dans le travail, mais quelle en est la cause? Est-ce que c'est quelque chose dont la personne est consciente?
Non, c'est ça. Peut-être qu'elle ne se rend pas compte que. Parce que peut-être qu'elle pourrait même avoir un autre type d'emploi dans la même entreprise, puis elle serait plus heureuse. Tu sais, puis,
oui, intéressant. Fois, c'est
pour sortir d'espèce de ce carcan-là, là, un cercle vicieux. Tu sais,
et de ne pas perdre l'employé, parce que dans le fond, comme tu dis, pour être heureux ailleurs, ça c'est intéressant et l'entreprise gagne là-dedans.
Oui.
Bon, alors une des solutions, je crois que je t'en ai parlé un tout petit peu plus tôt, c'est peut-être aussi que l'entreprise décide d'augmenter un petit peu un nombre consécutif de jours de maladie avant qu'il y ait inactivité officielle.
Ouais.
Donc vraiment se dire, dans le fond, eh bien moi, 10 jours par an, comme en Europe, certains pays en Scandinavie, les femmes ont des jours pour leurs jours de menstruation.
Ouais.
On pourrait dire, dans le fond, il y a. Parce que quand il y a X jours de congé, souvent on dit oh oui, tu te casses la jambe, t'as mal à la dent, il t'arrive un truc, tu tombes sur la règle.
Ça prend
raison.
On
dit rarement oui, j'ai besoin de souffler. C'est la santé mentale. Or, une personne sur trois a déjà eu un problème. Donc, forcément, vos voisins ont des troubles légers ou plus lourds.
Donc, ça pourrait être des congés personnels. À ce moment-là, on ne rentre pas dans l'intimité des gens. Les gens peuvent décider pourquoi.
Il n'y a pas de certificat, mais cette personne va revenir meilleure au travail.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, en fait, que l'entreprise aussi peut avoir une politique pour lutter contre la stigmatisation de la santé mentale en montrant l'exemple, peut-être.
Ouais.
Des gestionnaires pourraient dire, oh ben voilà, moi, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai un burn-out. Ou j'ai une maladie mentale aussi, ou quoi. Montrer l'exemple et dire, ben voilà, je suis fonctionnel, je travaille, etc. Donc, bien communiquer, bien informer, surtout aussi les employés, sur les mesures, en fait. Si elles sont nouvelles et qu'elles existent, l'un ou l'autre, ben voilà ce qui est disponible, comment on peut les aider.
Pour les faire connaître aux employés.
Oui, faire des réunions un peu informelles aussi, parce que si vous dites juste information sur la santé mentale et que c'est un kiosque, les gens vont peut-être pas venir.
Ouais.
Tandis que si c'est quelque chose qui est en ligne où tout le monde doit venir, bon, ben, les gens peuvent écouter et ils enregistrent ce qu'ils veulent.
Fois, dans les entreprises, il y a des intranets aussi, tu sais, il y a des sites privés où les gens peuvent avoir accès aux. C'est comme plus. C'est comme plus. Moins personnel, dans le sens, c'est plus anonyme. Là, si
voilà, c'est via le. Souvent, je dis pas que c'est ça, mais via le PAE, le programme d'aide aux employés. Donc, vous avez droit à de l'aide via un autre site qui n'est pas celui de l'entreprise aussi. Ça, c'est encore autre chose et j'allais justement y arriver. Donc, vraiment essayer d'encourager la confiance de l'employé envers les gestionnaires et l'employeur. Parce que se confier sur la santé mentale, il y a encore de la stigmatisation. Comme je disais, c'est pas comme un abcès dentaire ou une jambe cassée. Donc, il faut qu'il y ait une confiance qui se construise. Et surtout aussi, ne pas faire travailler les employés pendant les vacances, ne pas leur demander « Ah oui, ben t'es en congé, oui, mais j'ai quand même un problème, et je t'écris un courriel ou réponds-moi.
Ouais. »
Bon, ça, il y a vraiment des limites à ne pas dépasser. Donc, il faut éduquer les employés, eux-mêmes sur le symptôme, parce qu'on parlait tout à l'heure de ça. Dans le fond, l'employé, il se rend peut-être pas compte de ce qu'il est en train de faire, qu'il fait du présentéisme, mais qu'il travaille pas beaucoup, qu'il est pas très productif. Donc, peut-être vraiment éduquer les gens aux symptômes. C'est quoi un problème de santé mentale? Qu'est-ce qui est en train de t'arriver? Peut-être aussi donc avoir des sessions, des petites brochures, etc. Et puis revoir le contenu des politiques et voir vraiment que l'entreprise... oui, ça lui demande des efforts, mais à long terme, il y gagne en productivité, il garde ses employés, parce qu'il dit, mon Dieu, j'ai un employeur très moderne, éduqué, qui prend soin de ses employés.
Et même si, comme tu dis, c'était 10 journées, c'est pas grand-chose, 10 journées dans l'année, là, si ça peut donner un meilleur sentiment d'appartenance, puis une certaine joie au niveau des employés pour dire, ben, l'employeur me comprend, ça, c'est un investissement. Là,
et ça retire un stress juste à voir, ben, dans le fond, le jour où ça va un peu moins bien... Eh bien, ça,
pas,
je prends une demi-journée ou une journée de congé, et le lendemain, ça ira peut-être mieux.
Ouais.
Et ça évite l'effet le boule de neige, où on n'a jamais ça, et où les freins commencent à fumer, on va dire.
C'est ça.
Quand on use nos freins de santé mentale.
Il reste 20 secondes, donc finalement, il y aura quelques référents, je pense.
Il y a évidemment, lors des psychologues, si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien, consultez. Et puis aussi, j'ai mis une petite définition et j'ai mis ce qui est un programme d'aide aux employés. Ça peut être utile. Ouais.
Merci beaucoup, Catherine. Donc, le présentéisme au travail.
Merci, Yvan.
Merci.
Retour au micro à Folie douce pour en savoir plus sur les difficultés émotionnelles.
De retour, Pierre, au sujet que tu as commencé plus tôt, l'argent fait-il le bonheur? Donc,
oui.
Une question qu'on entend souvent.
Oui.
et ça me fait penser, Pierre, tu sais, il y a quelqu'un que j'avais déjà entendu qui disait le bonheur, c'est un peu la bonne heure, dans le sens que le bonheur, ça peut être juste un bon moment, tu sais, qu'on passe. Le bonheur, c'est pas nécessairement mur à mur et pendant une année. Des fois, ça peut être un moment... de bonheur, puis c'est ça le bonheur aussi, tu sais, c'est pour ça, la bonne heure, là, ça peut être une heure que tu vas dire, waouh, j'ai vécu un moment intéressant. Là.
Oui, il y en a plusieurs qui disent ça, je me souviens d'une animatrice radio qui disait, en fait, le vrai bonheur, ça n'existe pas, mais il peut y avoir plusieurs petits bonheurs.
Petits bonheurs qui fait que l'ensemble, ouais. on est heureux, puis on est... C'est ça, effectivement.
C'était Suzanne Lévesque, je me rappelle.
Ah oui, d'accord. Ah, oui.
oui, alors, oui, elle avait fait les belles heures de ses cassives, plusieurs années. Oui,
effectivement, une des speakerines les plus...
Oui, les plus écoutées. Ouais. Alors, juste pour terminer l'article que j'avais commencé, « Est-ce que l'argent fait le bonheur? » Texte argumentatif que j'avais pris sur le site Flash Mode. J'avais deux autres pensées que j'aimerais partager ou vous partager.
Alors,
il y avait Gertrude Stein, qui était poétesse, écrivaine, dramaturge et féministe américaine. Elle avait dit « Celui qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur n'a jamais fait ses courses. »
Ouais.
C'est une façon de le voir.
Ben ouais.
Et il y avait finalement Jules Renard, un écrivain et auteur dramatique français décédé en 1910. Il avait dit « Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. » Fait que tu vois que c'est pas d'aujourd'hui qu'on se pose cette question-là.
C'est ça, ça fait longtemps. Non, parce qu'on se dit toujours, tu sais, effectivement, à toutes les périodes de l'humanité, en fait, les gens qui avaient plus de moyens, c'est ça.
Et dans un autre article, un article qui s'appelle « Le top 15 des preuves que l'argent fait clairement le bonheur », on rajoute « On nous aurait donc menti ». J'ai pris ça sur le site topito.com. Alors, voici ces 15 raisons, ces 15 preuves que l'argent fait clairement le bonheur. Premièrement, la langouste, ça reste meilleur que les nouilles instantanées.
Ouais, ça coûte plus cher.
En tout cas, c'est un peu meilleur.
Ouais.
Deuxièmement, l'argent rend beau. On ne dit pas pourquoi, peut-être que ça paye...
C'est parce que ça paye des traitements, des choses comme ça.
C'est meilleur beau et belle.
Meilleure coupe de cheveux, meilleur traitement.
Oui, ça a l'allure.
Oh, ouais.
Troisièmement, les personnes très riches font de l'évasion fiscale. La preuve que c'est mieux d'en avoir trop que pas assez. En plus, le partage, c'est une valeur de pauvre.
Ouais.
Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça.
En
tout cas, c'est leur opinion.
C'est pas trop éthique. Là,
c'est le site Topito.
Oui, c'est ça.
Quatrième...
Si vous avez des plaintes, c'est là-bas, c'est pas de
ouais. Une autre preuve que l'argent fait clairement le bonheur, quatrièmement, c'est que voyager en jet, c'est plus sympa que de prendre le bus. Bon, ça pollue un peu plus, mais ça, c'est aussi la rançon du bonheur. Et contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas facile de porter cette culpabilité. Et oui, parce que ce sont les riches qui polluent le plus sur la planète et franchement, ils le vivent mal. Donc, double ration de séance chez le psy.
Ah oui, pauvres eux.
Hein?
sont un peu ironiques dans la
rapport. Oui, il y a beaucoup d'ironie là-dedans. Cinquièmement, une autre preuve que l'argent fait clairement le bonheur, c'est qu'on n'a jamais entendu personne se plaindre d'avoir trop d'argent. Sixièmement, la loterie, la française des jeux, ça c'est en France évidemment, n'existerait pas. Sinon, pourquoi vouloir gagner des millions quand on peut être heureux avec un sandwich triangle?
Pas de croûte? J'imagine.
Non, je pense pas que les sandwichs triangles rendent tellement heureux.
Non.
Septièmement, quand les gens qui font la grève demandent de la considération, en général, on leur file de l'argent et ça va. Entre le respect et l'oseille, il n'y a pas photo. C'est vrai, dans le fond. Souvent, la considération, c'est un peu plus d'argent qu'on demande. Huitième preuve que l'argent fait le bonheur, les gens sont rarement déçus quand on leur offre de l'argent.
Ça, c'est vrai, c'est sûr.
C'est vrai. Après, si vous trouvez ça bizarre, vous pouvez toujours employer la technique du paresseux. Les chèques cadeaux, mais c'est comme donner de l'argent, sauf qu'on peut le dépenser dans un seul magasin. C'est donc moins bien que de l'argent. Neuvième preuve que l'argent fait le bonheur. L'argent fait pas le bonheur, mais le bonheur remplit pas l'assiette, disait le rappeur français Booba. Et manifestement, il a bien mangé ses épinards. Mais tu vois, je ne connais pas, moi, le rappeur Booba.
Non.
Je sais pas, il est peut-être très musclé comme Popeye. J'aurais dû vérifier. Dixième preuve que l'argent fait clairement le bonheur. Les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur sont pauvres et malheureux. Et souvent végans, ce qui revient au même.
Ouais.
En tout cas, d'après les auteurs de l'article. Onzième preuve que l'argent fait le bonheur. Généralement, les trucs qui permettent d'acheter plein de fringues et une grande maison, ça fait le bonheur. Après, ça pourrait être autre chose que l'argent, genre des trombones. Mais dans ce cas-là, on dirait que les trombones font le bonheur, mais c'est pas temps, l'argent ou les trombones qui font le bonheur, c'est bien tout ce qu'on peut faire avec. Comme pouvoir aller à la boulangerie et s'acheter tous les matins 6 chouquettes fourrées à la crème pâtissière.
Chouquettes.
Ça, c'est le bonheur. On n'a pas ça ici au Québec, je pense. Hein? Des chouquettes fourrées à la crème pâtissière. Peut-être
qu'on l'appelle différemment.
Oui, peut-être. Ouais. Douzième preuve que l'argent fait le bonheur, dans la télésérie La Casa de Papel. Le professeur braque la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Et clairement, il n'y va pas pour les timbres. Étonnant, non. En plus que les timbres, c'est encore hyper utile de nos jours. On écrit tous des lettres avec une plume éclairée à la flamme d'une bougie chaque dimanche soir, non. Encore une fois, c'est assez satirique. Mais je ne connais pas la série La Casa de Papel.
Oui, ça a connu un gros succès.
Oui, hein? Ouais. Et treizièmement, quand je pense à mon appartement de rêve, j'imagine plus un 150 mètres carrés dans Paris centre qu'une chambre de bonne. De là à dire que l'argent fait le bonheur, il n'y a qu'un pas et je le franchis. Nous dit cette personne. Quatorzièmement, t'es déjà triste en étant pauvre, donc autant être triste sur ton île privée. Bizarrement, la tristesse s'atténuera. Et finalement, quinzième et dernière preuve que l'argent fait clairement le bonheur, selon une étude de l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut national de la statistique et des études économiques basé en France, 22,5% des ménages parmi les plus modestes se déclarent très insatisfaits de leur vie, contre seulement 1,8% chez les plus riches. À l'inverse, 23,4% des plus riches se déclarent très satisfaits de leur vie, contre seulement 6,7% des plus pauvres.
Et même ici, Yvon Deschamps le disait, c'est mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Oui. Alors, oui. Il avait raison. Mais merci beaucoup pour ce sujet plutôt rigolo. Merci, Pierre.
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous radiophonique, Pierre, pas n'importe lequel, le 900e rendez-vous radiophonique de Folie Douce, oui. C'est la 900e émission aujourd'hui quand même.
Quasiment pas croyable.
Quand même pas croyable. Hein?
Comment on fait pour demeurer sain d'esprit?
Ben oui, c'est ça. Ben, on est humble, alors c'est ça que ça prend. Alors, on va faire la nomenclature des chansons de cette 900e aujourd'hui. Oui. On a écouté en début d'émission « Partir au loin ».
Oui, de Léo Pichet.
On a écouté « Je me jette à ton cou ».
De Gaëtan Roussel.
Dans la deuxième partie de l'émission, « Emilio Anydena ».
Oui, de Elliott Maginot.
Et à l'instant, « Je danse ».
De Maude Audet.
Merci beaucoup pour ce show musical ainsi que pour ton travail en régie comme à chaque semaine.
Ben, bienvenue, mon cher.
Et merci aussi pour ton sujet. J'ai ta question que tu posais à ton espresso et espresso allongé. L'argent fait-il le bonheur? Mm-hmm. On peut en tirer des conclusions. On y reviendra sûrement. C'est un sujet très, très intéressant à discuter. Notre invité en début d'émission, Thomas Bastien, nous a parlé de l'Association pour la santé publique du Québec. On le remercie d'avoir été des nôtres. Et notre collaboratrice, Catherine Stassin, nous a amené son sujet, le présentéisme au travail. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.